Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio Prague. Voici les informations. Le Premier ministre Jiří Paroubek a officiellement présenté le programme d'action avec lequel il engagera vendredi la responsabilité de son cabinet à la Chambre des députés. Jiří Paroubek se déclare optimiste en ce qui concerne le résultat du vote de confiance. Les priorités du programme d'action sont les suivantes: l'adoption de la Constitution européenne, la croissance économique, la réforme des retraites, la diminution des impôts sur les revenus les plus bas et la lutte contre la criminalité et le chômage. Jiří Paroubek veut aussi entamer la réforme des loyers, jusqu'ici régulés. L'Ukraine envisage l'abolition de visa pour une durée illimitée à l'égard de tous les citoyens de l'Union européenne, a déclaré le chef de la diplomatie tchèque, Cyril Svoboda, à l'issue d'une rencontre avec son homologue ukrainien Boris Tarasyuk. Quant à la République tchèque, elle doit respecter la politique communautaire qui ne prévoit pas pour l'instant de supprimer l'obligation de visa à l'égard de l'Ukraine, a indiqué Svoboda. L'association des anciens prisonniers politiques demande le départ du ministre de l'Intérieur, František Bublan, et du président de la police, Jiří Kolář. Elle réagit ainsi à l'intervention des policiers pendant les célébrations du 1er mai par les communistes à l'esplanade de l'Etna. La façon dont la police a intervenu contre les activistes anticommunistes rappelle les pratiques de l'ancienne police politique STB, souligne l'association dans sa lettre adressée au président du Parlement. Les médecins sont prêts à protester contre la décision de la ministre de la Santé publique, Milada Emerova, de ne pas augmenter leur salaire. Une réunion de crise de l'Ordre des médecins, de l'Association des hôpitaux et du Syndicat des médecins est convoquée pour lundi prochain. En 2004, le bénéfice net de la compagnie aérienne nationale, Acesa, a augmenté de plus de 4 fois, à 10 800 000 euros. La compagnie a élargi sa flotte de 10 nouveaux appareils. Les lignes reliant Prague à Paris, à Londres, New York et Moscou étaient les plus demandées. Un temps variable règne sur la Tchéquie avec des averses et des températures qui varient entre 10 et 14 degrés. C'était les informations par Jarka Gisublova. Merci de les avoir suivies.
Faits et événements en République tchèque. Alain Slivinski.
Dans ce magazine d'actualité, la première place sera réservée aux célébrations du 60e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Moscou. Et à certaines critiques émises par le président tchèque Václav Klaus, cela avec Magdalena Segertova. Ensuite, nous nous intéresserons au programme d'action du nouveau gouvernement tchèque qui vient d'être présenté, au prix Chalda, une excursion dans la sphère culturelle avec Václav Richter, au correspondant de guerre aujourd'hui avec Anna Kubishta, à la fête de la Philatélie à Brno avec la présentation de l'un des plus célèbres timbres au monde. Une réalisation technique de Jarka Fikarlova, dont nous vous souhaitons une agréable réception. Le président tchèque Václav Klaus a fait sentir sa présence aux commémorations moscovites de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Avant même de s'envoler pour la capitale russe, il s'est fermement opposé, dans une déclaration publique, à la décoration par Vladimir Poutine du général polonais Wojciech Jaruzelski. Un autre événement qui a quelque peu assombri la grandiose fête Poutine, boycottée par deux pays baltes. Explication avec Magdalena Segertova.
Je ne peux pas accepter qu'il ait été décoré. En 1968, en tant que ministre de la Défense d'alors, il a donné l'ordre d'envahir la Tchécoslovaquie. Et puis, inutile de rappeler qu'il a contribué à réprimer le mouvement Solidarité. C'est en ces termes que Václav Klaus a parlé encore à Moscou devant les journalistes de l'ancien homme d'État polonais Wojciech Jaruzelski. Âgé aujourd'hui de 81 ans, le général ainsi que les ex-présidents d'Albanie, de Grèce, de Croatie, de Chypre et l'ex-roi de Roumanie ont reçu du chef de l'État russe une médaille jubilaire à l'occasion de l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne nazie. Sans négliger ses mérites dans la lutte contre le fascisme, Václav Klaus voit donc en Jaruzelski, selon les termes de sa déclaration officielle, un symbole de l'invasion des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie. Si la présence même de Jaruzelski à Moscou a provoqué une polémique en Pologne, la réaction du président tchèque n'est pas restée non plus sans écho, en son positif, notamment parmi les journalistes polonais ayant assisté au défilé. Le chef de l'État affirme avoir fait part de ses objections à Vladimir Poutine lors de leur très brève rencontre au Kremlin. Cela ne semble pas avoir nui aux relations bilatérales, vu que les deux dirigeants ont réussi pendant quelques minutes à se mettre d'accord sur la prochaine visite du chef de l'État russe à Prague. D'ailleurs, concernant la polémique historique sur l'après-1945 qui divise l'opinion publique mondiale, Václav Klaus penche du côté de Moscou. Pour lui, la Russie avait bien le droit de célébrer en grande pompe cette victoire qui lui appartient. La guerre et la domination soviétique en Europe de l'Est qui lui a succédé sont, d'après le président, deux choses bien distinctes. Les millions de victimes et les millions de simples soldats russes ne se sont quand même pas battus pour l'instauration du communisme, estime le président Klaus. Il n'empêche que plusieurs personnalités politiques et publiques tchèques ont soutenu l'appel des intellectuels russes et occidentaux qui ont, à l'occasion des festivités moscovites, pointé du doigt la politique intérieure de Vladimir Poutine, politique qu'ils jugent antidémocratique.
Le Premier ministre Jiří Paroubek Beck a présenté son programme d'action lors d'une conférence de presse ce mardi matin. C'est avec ce programme d'action qu'il engagera vendredi la responsabilité de son gouvernement à la Chambre des députés. Le Premier ministre est persuadé qu'il obtiendra la confiance de la Chambre où la coalition gouvernementale bénéficie d'une faible majorité de 101 voix sur un total de 200 députés. Pour le cabinet, comme l'a déclaré Jiří Paroubek aux journalistes, la priorité du programme d'action reste l'adoption de la Constitution européenne par la voie du référendum. D'après le gouvernement, le référendum devrait avoir lieu en même temps que les élections législatives de juin 2006. Le Premier ministre pense intervenir plus souvent et plus radicalement que ses prédécesseurs sociaux-démocrates dans les activités des différents ministères. Son programme d'action, bien que suivant la ligne générale des précédents, présente certaines différences dans les détails sur lesquels le chef du gouvernement a insisté lors de la conférence de presse.
Ty hlavní odlišnosti jsou ve větším akcentu na podporu podnikání.
Les principales différences résident dans un plus fort accent sur le soutien à l'entreprise, donc en premier lieu aux petites et moyennes entreprises. Pour cela, nous pourrons aussi nous appuyer sur la contribution qui est offerte par les fonds structurels de l'Union européenne. Les gouvernements précédents, celui de Gross ou de Špidla surtout, n'en disposaient pas. Après le vote de confiance, le Premier ministre demandera à tous les partis parlementaires de commencer la discussion de la réforme des retraites. Personnellement, il veut contrôler les secteurs de la santé, mais aussi par exemple l'introduction du système de péage sur les routes tchèques. Autre priorité du gouvernement, la lutte contre la criminalité, la hausse des investissements dans l'enseignement, la lutte contre le chômage avec l'objectif de 5% de chômeurs seulement en 2010. Année où la Tchéquie devrait également adopter l'euro, d'après le Premier ministre. C'est à la foire Le Monde du Livre, au Parc des Expositions à Prague, qu'ont été remis samedi dernier les prix aux meilleurs traducteurs des livres dont les éditeurs avaient bénéficié d'un soutien dans le cadre du programme d'aide à la publication Chalda, programme qui porte le nom du grand historien de la littérature et critique František Xaver Chalda, Václav Richter.
Le programme Chalda, créé par le service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France à Prague, aide les éditeurs tchèques à publier chaque année 20 à 30 textes d'auteurs français ou francophones lors de la remise des prix dans l'espace francophone de la foire. L'ambassadeur de France, Joël de Zorzi, a tout d'abord expliqué les objectifs du programme Chalda.
Grâce à ce programme, il y a à peu près 350 titres qui ont pu être traduits en tchèque. Depuis quelques années, nous avions pensé qu'il était peut-être intéressant d'essayer de susciter une certaine émulation parmi les traducteurs. Nous avons, il y a 2 ans, remis le premier prix de l'ambassade à Madame Anna Kareninova. Nous la félicitons à nouveau pour ses traductions, notamment de Céline. Alors cette année, avec l'aide d'un jury comportant bien entendu de nombreux amis tchèques, nous avons sélectionné un nouveau lauréat. Et en fait, cette année, il a été tellement difficile de faire le choix d'un lauréat qu'il y en a en fait 2.
Cette année donc, les prix de l'ambassade de France ont été accordés à Jovanka Chotolova et Joseph Fulka. Jovanka Chotolova a été distinguée pour sa traduction du roman « Pompe funèbre » de Jean Genet.
Je dirais plutôt que c'est Genet qui a dû recevoir le prix. Moi, je ne suis que l'intermédiaire de son texte. Et son texte est si beau, très poétique. Jean Genet dit qu'il écrit « qu'il veut écrire comme Pierre Ronsard, si je simplifie un peu, et vraiment son langage, son texte est très difficile.
Est-ce que le prix vous donne le courage maintenant pour continuer à traduire Genet et d'autres auteurs français?
Je pense que ce n'est pas la question du prix. J'adore ce travail, j'aime traduire, j'aime la littérature. Si j'ai l'occasion de traduire d'autres textes de Genet ou d'autres grands auteurs français, j'en serais ravie. Maintenant, je dois traduire un livre de Jean Echenoz au piano. J'ai déjà le contrat pour cette traduction. Et après, je ne sais pas encore ce que je vais faire, parce que publier Genet en tchèque, il faut avoir du courage. Je ne sais pas si je trouve un éditeur qui puisse le faire.
Quant à Josef Fulka, enseignant de philosophie, il traduit la littérature théorique. Le prix lui a été accordé notamment pour ses traductions de Mythologie de Roland Barthes et du Nomadisme de Michel Maffezoli.
Ce que j'ai traduit principalement, ce sont des ouvrages théoriques, à savoir la philosophie, la sémiologie, la théorie littéraire. Et je viens de recevoir le prix pour les deux dernières traductions, je crois.
Vous pouvez préciser les ouvrages et les auteurs?
Oui, j'ai traduit par exemple Roland Barthes, Pierre Klossowski, Gilles Deleuze, Michel Foucault et d'autres.
Est-ce que c'était un travail difficile? Est-ce que la traduction posait beaucoup de problèmes?
La traduction, ça pose toujours des problèmes, mais je crois que c'est quand même plus facile que de traduire, disons, la littérature. Je suis très heureux d'avoir reçu le prix. Je vais certainement continuer.
Le monde change, et l'un de ses instruments de compréhension, qu'est le journalisme également, les journalistes dans la guerre, mais beaucoup plus largement le rôle des médias. Tel était le thème de la conférence débat de ce lundi à l'Institut français de Prague. Jean-Noël Jeannet, historien, ancien président de Radio France, actuellement président de la Bibliothèque nationale de France, était invité comme spécialiste de la presse et des médias. Jean-Noël Jeannet, au micro d'Anna Kubishta.
En période de guerre, les informations circulent exactement aussi vite, mais la question est, comme aujourd'hui, de savoir si cette information est juste ou elle ne l'est pas. Est-ce que c'est 2 heures après ou 4 heures après? Ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir si on parle juste ou vrai. C'est un autre aspect de la réflexion, je crois, qui est celui de la manière dont les journalistes, en temps de guerre, affrontent les difficultés particulières de cette situation, en particulier le conflit qui existe toujours entre leur désir de chercher la vérité et leur fidélité à leur pays, leur objectivité d'un côté, leur patriotisme de l'autre. Et ça n'est pas facile. En temps de guerre. Ce n'est pas facile parce que l'un et l'autre souci est tout à fait honorable. Je crois que ça a été le problème de la presse américaine, par exemple, pendant la Seconde Guerre du Golfe, avec des excès et des débordements dont elle a demandé qu'on l'excuse. Tout récemment, elle s'est en quelque sorte accusée elle-même de trop d'emportements patriotiques.
Certains grands reporters de guerre, pensons à Jaromír Štětina en République tchèque, spécialiste du Caucase, passent parfois à un certain moment de leur vie et de leur carrière à la politique, comme si leur travail de journaliste aboutissait à une impasse. Jean-Noël Jeannet.
Il y a sûrement chez certains correspondants de guerre une lassitude au bout d'un certain temps, lassitude de l'horreur, lassitude peut-être du danger. C'est vrai aussi pour les photographes de guerre, qui sont une profession tout à fait particulière. Ce sont des gens qui, à un moment donné, sont en quelque sorte saturés d'horreur. Et tout à coup, la coupe déborde, ils n'en peuvent plus. Alors ils peuvent devenir éditoriaux en chambre, ils peuvent se mettre à faire des photos de jolies filles. Mais un certain nombre, en effet, ont envie tout à coup d'arrêter, peut-être d'arrêter avant de sauter sur une mine.
S'ils ne minimisent pas la nouveauté de la période dans laquelle nous vivons, s'ils ne réfutent pas l'inédit du rôle et de la forme des médias actuels, ils invitent cependant à rester prudents. Néanmoins, il existe une manière d'échapper à l'écueil d'une opinion publique indifférente, désensibilisée, ou au contraire prompte aux réactions passionnelles face à la surabondance d'images.
En tant qu'historien des médias, je suis un de ceux en France qui n'a pas cessé de se battre depuis plusieurs dizaines d'années pour que, à l'école, pour qu'à l'université, on installe la discipline de l'analyse des images dans une position centrale. Vous avez parfaitement raison de rappeler que l'explication de texte pour la réflexion de l'apprenti historien et plus largement de l'apprenti citoyen est fondamentale. Apprendre à avoir le recul par rapport à ce qu'on écrit. Regarder les textes non pas sous la lumière de midi qui écrase les formes, mais sous la lumière rasante du matin ou du soir qui met les reliefs en valeur. Eh bien, c'est la même chose pour l'image. Je ne sais pas pourquoi, peut-être à cause de sa modernité, on a renoncé à enseigner aux élèves et aux étudiants la réflexion sur l'image. Alors, c'est la seule façon de les rendre libres par rapport au bombardement de la télévision et même par rapport à Internet et tout ce que la toile nous apporte en mélange de choses vraies et de pantalonnades, de fariboles, d'absurdités.
Le timbre-poste de l'île Maurice a élu domicile pour 6 jours au parc des expositions du chef-lieu de la Moravie, Brno. Il s'agit du timbre bleu de 2 pence qui est présenté à l'exposition européenne de timbre-poste Brno 2005. Un timbre qui attire toujours l'attention des philatélistes du monde entier, où qu'il soit exposé. En effet, c'est le premier timbre postal colonial émis dans le monde, au mois de septembre 1847. Il fait partie des collections personnelles de la reine de la Grande-Bretagne et c'est la 2e fois qu'il est exposé sur le territoire tchèque. 2 exemplaires avaient déjà été prêtés par la couronne britannique pour l'exposition philatélique de Prague en 1978. Le Twopence bleu, ou Mauritius bleu, comme on appelle souvent ce bijou de la création des timbres-poste, est arrivé sous une forte escorte à Brno. Il est présenté à l'exposition sous un simple verre, dans un cadre en aluminium. Pourtant, pour admirer les 2 exemplaires exposés, il faut passer par un système de sécurité semblable à ceux des aéroports, cadres et détecteurs. Pourquoi le Twopence est-il aussi célèbre? Selon Valentin Schiebel, directeur de l'organisation de l'exposition européenne Brno 2005, parce qu'il est entouré de légendes, et parce que c'est l'un des timbres-poste les plus chers au monde, dans les 40 millions de dollars. En plus de cela, c'est un timbre rare. Les 2 exemplaires exposés à Brno font partie d'une série qui ne compte plus que 27 timbres au total de nos jours. Il en existe seulement 12 en version bleue, la plus cotée, et 15 en version rouge. Pourquoi le timbre est-il encore célèbre? Comme dans la plupart des cas, en raison d'une faute d'impression. Le graveur, Joseph Osmond Barnard, s'est trompé en gravant à gauche l'inscription « Post Office » à la place de « Post Paid ». Le Grand Concours 2005 de Radio Prague. Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question « La bière tchèque, qu'est-ce que cela évoque pour vous ?» Vous pouvez envoyer vos réponses jusqu'au 15 juin au plus tard à notre adresse postale Radio Prague, Vinohradská 12, 120 99, Prague 2, République tchèque. Vous pouvez aussi utiliser le courriel à l'adresse cr@radio.cz. Le premier prix est un séjour d'une semaine en République tchèque pour 2 personnes. Les auteurs des autres meilleures réponses seront récompensés par des prix de valeur et leurs noms seront cités sur notre site web. Le séjour d'une semaine est gracieusement offert par l'hôtel Falkensteiner Maria Prague, dans une atmosphère familiale de style, en plein centre de Prague. Les billets d'avion sont offerts par les lignes aériennes tchèques, votre partenaire, lors de vos voyages en République tchèque. Nous avons eu le plaisir de vous présenter Faits et événements. Bonne écoute et bonne réception et agréable moment en compagnie de Radio Prague pendant les instants suivants.
La République tchèque au quotidien. Alexis Rosenzweig.
La Journée de l'Europe est célébrée tous les 9 mai depuis 1985 en souvenir de la célèbre déclaration prononcée par Robert Schuman le 9 mai 1950. Lundi, c'était la 2e fois que cette journée était fêtée en République tchèque depuis son adhésion à l'Union européenne. L'occasion de rencontrer les fonctionnaires européens en poste à Prague et de parler avec eux du sujet central du moment, le traité constitutionnel pour l'Europe. Et la République tchèque est un pays qui se distingue singulièrement des 24 autres États membres qui doivent ratifier ou qui ont déjà ratifié la Constitution européenne. D'abord, lorsque sont évoqués les pays dans lesquels la Constitution aura le plus de mal à être ratifiée, les pays dits à risque, la République tchèque figure en bonne position aux côtés du Danemark, de la Grande-Bretagne ou de la France. Ensuite, il faut préciser que Prague n'a pas encore décidé de quelle manière sera ratifié le texte. Jiří Kubíček dirige le bureau d'information du Parlement européen dans la capitale tchèque.
Nous ne savons pas encore si s'il y a le référendum. Pour le moment, il semble qu'il y aura un référendum parce que le nouveau chef de gouvernement a confirmé, même on entend maintenant la déclaration du gouvernement, mais on attend que ce sera le référendum à le confirmer. Il y a l'autre possibilité, il y a la ratification par l'intermédiaire du Parlement, Parlement tchèque, mais pour le moment, on ne le parle pas. Pas tellement, on ne le discute pas fortement comme la possibilité de référendum. Et si nous savons si c'est le référendum ou si c'est le Parlement, maintenant il faut trouver la date. Et il y a deux partis, deux grands partis qui sont d'opposition pour la date. C'est ODS qui le veut vers la fin de l'année courante et c'est le parti de démocrate social qui préfère l'année prochaine quand on va aller aux urnes avec les élections ordinaires.
Alors il y a un autre fait important en ce qui concerne la République tchèque et la Constitution européenne. Donc c'est le dernier pays dont on ne sait pas de quelle manière va être ratifiée cette Constitution. Et puis aussi, et peut-être surtout dans les médias étrangers, ce dont on parle le plus, c'est du chef de l'État qui est contre et qui est un des plus grands opposants à cette Constitution. Est-ce que ça vous place dans une situation difficile, vous qui représentez le Parlement européen, notamment en raison des dernières querelles entre des députés européens et le président Klaus?
Ah, je crois son opinion est normalement légitime et tout le monde tchèque le respecte et le connaît. Ça, il n'y a pas de surprise pour la société. C'est l'autre question, à mon avis. Il y a beaucoup d'accord avec cette position, mais on le respecte. À propos de cette petite querelle, je crois que c'est déjà réglé. Il y avait un échange de lettres. On a clarifié les positions et pour nous, il n'y a pas de changement, pas de problème.
Christian Bourgin dirige, lui, la représentation de la Commission européenne à Prague, dans le seul pays donc où le chef de l'État fait activement campagne contre le traité constitutionnel pour l'Europe.
Bien sûr, c'est quand même un cas exceptionnel parce que aucun chef d'État ou de gouvernement en Europe ne s'est exprimé contre la Constitution. Forcément, parce qu'ils ont tous, en fait, signé le traité. Bon. Le président ici a dit avant la signature, et là je crois qu'il est tout à fait constant dans sa position, que lui il ne voudrait pas signer le traité, donc il a laissé le Premier ministre. Alors c'est une position exceptionnelle effectivement, et vu de l'étranger, on peut être assez inquiet ou surpris de cette position. Ceci dit, maintenant quand on vit en République tchèque, on se rend compte que les gens respectent le président parce que c'est une personne charismatique et influente et qui a effectivement eu un rôle dans le développement du pays et qui continue à avoir un rôle important, mais qui en même temps a des idées un peu paradoxales, qui ne représentent pas forcément l'opinion publique tchèque. 70% de la population tchèque a une image positive du président, mais en même temps, même parmi ces 70%, quand on discute avec les gens, on se rend compte qu'on le respecte, mais en même temps, on n'est pas forcément de son avis, surtout sur la construction européenne. J'ai tendance à dire, évidemment, il faut s'inquiéter quand même lorsqu'une personne aussi influente est contre la Constitution, mais en même temps, il faut être optimiste en pensant que le bon sens prévaudra et que les gens se regarderont effectivement d'une manière concrète ce qu'il y a dans le traité.
Naturellement, notre campagne sera la campagne d'information parce que peu de gens ont eu la possibilité d'ouvrir le texte de la Constitution européenne et pour le moment, nous avons des textes de Constitution et nous commençons une distribution plus massive. Modestement massif, mais nous cherchons de le faire un peu et de présenter, même pendant ce soirée de festivités que nous venons d'organiser pour les jeunes gens.
Comment est-ce que vous observez, vous, en tant que Tchèque, le débat sur le référendum en France? Comment est-ce que vous sentez qu'il est perçu à Prague, ce débat, avec la peur du non? Est-ce qu'on craint que l'un des pays locomotives de l'Europe pendant de nombreuses années refuse une intégration approfondie, ou est-ce que ça rassure les Tchèques qui se disent au moins si les Français disent non, ce ne sera pas de notre faute si cette constitution ne passe pas?
Ah oui, peut-être il y a un sentiment de ce genre, mais généralement les Tchèques sont tout à fait concentrés sur eux-mêmes. Alors c'est notre problème, nous avons le regret, il n'y a pas de regard à propos de la France. Moi que j'entends tant le temps le radio français même et au aussi les journaux français. Je ne peux qu'envier le fait que vous avez le débat, la discussion à propos de la Constitution européenne beaucoup plus ouvert, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus structuré. Car chez nous, il y avait seulement des thèmes concernant la Constitution européenne. Il y avait premièrement le thème que l'Union européenne sera en fédération, sera en état super, etc., etc. Et l'autre thème, il y avait la pauvre République tchèque, si petite, etc., etc., n'aura pas plus de force, de puissance par l'intermédiaire de tout le contexte européen. Et il y a beaucoup d'arguments pour, il y a beaucoup de plus d'arguments contre, mais quand même, c'est un peu plat. Ce n'est pas tellement intéressant.
Et récemment, le ministre tchèque des Affaires étrangères, Thierry Svoboda, a pour la première fois exprimé le souhait de voir la Constitution ratifiée par la voie parlementaire. Il rejoint en cela l'ancien président de la République, Václav Havel, qui s'est très tôt prononcé contre un référendum. Et à quelques jours du référendum français, quelles conséquences la campagne et le résultat de ce référendum du 29 mai auront sur la méthode employée à Prague ? Réponse de Christian Bourgin.
Si le nom passe en France, alors d'abord ça posera problème pour la France et problème pour l'Europe. En République tchèque, je ne sais pas si ça aura une influence sur le mode de ratification, je ne sais pas. Mais ça aura certainement une influence sur l'attitude qu'auront les Tchèques vis-à-vis de la Constitution. Si le référendum en France est négatif, on peut imaginer que ça aura une influence sur un potentiel référendum en République tchèque.
C'est ainsi que se termine notre République tchèque au quotidien consacrée cette semaine à la Constitution européenne. Merci à toutes et à tous de votre attention et à très bientôt sur Radio Prague.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.